Quand on écoute la musique des années 60, on est nostalgique de l'époque, même si on ne l'a pas vécue. Nostalgique d'une parenthèse enchantée, avec croissance, emploi, liberté sexuelle. Quand on écoute Bob Marley, cette nostalgie n'existe pas. Parce que toute son œuvre parle des sujets qui hantent notre présent. L'esclavagisme, le colonialisme, la pauvreté la plus féroce, le métissage. À l'heure où l'un des mots qu'on prononce le plus, c'est « identité », Bob Marley prenait l'unité. Ce matin, Pop & Co et Pop & Bob Marley, disparu d'un cancer généralisé il y a 40 ans, c'était le 11 mai 1981, il avait 36 ans. C'est un destin personnel qui croise celui de l'humanité dans la lignée d'un Che Guevara ou d'un Nelson Mandela. Bob Marley fait entrer le sacré et la politique dans une musique populaire qui fait bouger les hanches dans le monde entier. Jusqu'à midi, pour parler de Marley, vous entendrez Francis Dordor, journaliste, Bernard Lavillier, auteur-compositeur, et Gaël Faye, rappeur et romancier. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Et ce matin, nous sommes en août, le 6 précisément. Le 6 août 1962, les actualités pâtées annoncent ceci.
Après 3 siècles d'administration anglaise, la Jamaïque est devenue indépendante. Les diverses cérémonies se sont déroulées dans une atmosphère typiquement britannique, dont l'appui elle-même n'était pas exclu. Lors de l'ouverture du Parlement, le Premier ministre, Sir Alexander Bustamante, a reçu les instruments constitutionnels de l'indépendance des mains de la princesse Margaret, qui a donné lecture du message d'amitié que la Grande-Bretagne a adressé à la Jamaïque.
Et dans ce passage de la Jamaïque d'un statut de colonie britannique à celui de pays indépendant, la musique joue le premier rôle. La bande-son qui raconte l'euphorie et l'optimisme des nouveaux citoyens jamaïcains, c'est ce style musical-là. Pas encore du reggae, mais ce qu'on appelle le ska. Ce morceau est le tout premier enregistré par Robert Nesta Marley. Sur l'étiquette du disque et une coquille, on lit Robert Morley. Il a 17 ans et il est métisse, fils d'un capitaine anglais et d'une paysanne jamaïcaine. Marley métisse appartient donc à une minorité stigmatisée en Jamaïque. L'incarnation d'une anomalie, l'union entre un blanc et une noire. Et sa toute première prise de parole, c'est ça. Ne me jugez pas. Il chante « Je sais que je ne suis pas parfait et je ne prétends pas l'être, mais t'es qui pour me juger ?» À Kingston, la musique est partout. Dans son livre « Le dernier prophète », le journaliste Francis Dordor rapporte ses propos de Bob Marley. Dans « Orange Street », j'entendais Nat King Cole. Dans « Regent Street », Ricky Nelson, Fats Domino, Elvis Presley. Quand Bob Marley décide de former un trio avec Bunny Wailer et Peter Tosh, ils reprennent donc des standards anglo-saxons, dont les Beatles. Tous les trois, ils ont le cheveu court, des souliers vernis, costards et ne pape.
Je suis là.
Voici le journaliste Francis Dordor, auteur de Bob Marley, Le dernier prophète. Et là, vous écoutez le groupe américain The Impressions.
À cette époque, quand ils rencontrent les Wailers, il y a un modèle qui s'impose pratiquement à tous ces groupes de cette génération-là, c'est le trio vocal. La principale influence à l'époque, c'est les Impressions. Donc, c'est un groupe de Chicago dont le leader est Curtis Mayfield. grande figure de la musique noire américaine, un des grands noms de la soul. Et Bob Marley va beaucoup s'inspirer de Curtis Mayfield, notamment dans sa manière à la fois de chanter, d'écrire, de composer des chansons romantiques, mais aussi d'y inclure toujours cette dimension sociale et voire politique. Ça, c'est quelque chose qui va énormément le marquer et qui va reproduire au fil des années comme ça. Il y a toujours cette dimension-là dans chaque chanteur de cette époque-là, que ce soit aux États-Unis, et ça, ce sera le cas aussi en Jamaïque, du moins pour la période du reggae. Ils ont pour mission, ils ont pour fonction induite dans leur démarche artistique de montrer le chemin, de montrer la voie. Parce qu'ils s'adressent à une population pauvre, déracinée, et qui cherche à travers les quelques éléments culturels qui peuvent les nourrir. Ils cherchent véritablement une direction, ils cherchent une voie, ils cherchent, et peut-être même, et ça ce sera le grand mot dans la carrière de Bob Marley, une rédemption.
Les Wailing Wailers, c'est le nom du trio que forment Bob Marley, Peter Tosh et Bunny Wailer. Dès 1964, ils enregistrent des morceaux à eux, écrits par Marley. Ça se passe au Studio One, l'un des premiers endroits de l'île à produire de la musique made in Jamaica. Le type qui dirige l'affaire se fait appeler Coxon Dodd. Bob, Peter et Bunny font encore du ska. D'ailleurs, ils sont accompagnés par le groupe qui a inventé le genre, les Scatolites. Le titre écrit par Marley s'intitule Simmer Down, calmez-vous. La chanson s'adresse aux ghettos, souvent en guerre les uns contre les autres. Et Marley dit « Dominez votre colère, unissez-vous contre la pauvreté, c'est ça notre ennemi commun. » Simmer Down est le premier succès de Bob Marley en Jamaïque. Les conditions imposées par Coxon Dodd au trio de Marley, c'est pas de contrat, pas de droit d'auteur et un salaire de misère. Alors Marley part tenter sa chance aux États-Unis avec Rita, qu'il vient d'épouser, mais rien n'aboutit. Quand il rentre en Jamaïque à la fin des années 60, un nouveau son est arrivé. Un son qui met en valeur les racines africaines de la Jamaïque que le colon britannique s'était chargé d'étouffer. Un son qui dessine le futur. C'est le reggae. L'un de ceux qui ont écrit les tables de la loi du reggae s'appelle Lee Scratch Perry. Francis Dordor.
Je l'ai vu à l'œuvre dans son studio à Black Ark à Kingston. C'est un spectacle que j'oublierai jamais, quoi. Quand il est là avec son joint à souffler sur la table de mixage pour répandre l'esprit. C'est un fou furieux, habité. C'est un génie. Lee Scratch Perry, il va lui apporter cette certitude. Qu'il a en lui un talent, un génie, et qu'il suffit effectivement de le maturer, de le servir. Marley, à l'époque, avait plus tendance à être dans une forme d'imitation de ce que faisait James Brown, de ce que faisaient les grands chanteurs américains dont il était fan. Et à un moment, effectivement, il va lui dire « Mais arrête d'essayer de faire une copie, une adaptation, sois toi-même ». C'est ça le message. Donc forcément, l'autre va trouver sa voix, il va la trouver naturellement à partir du moment où il va être dégagé un peu de ce complexe d'infériorité. Parce qu'en fait, c'est de cet ordre-là. Il y a une forme de complexe par rapport à ce qui se fait aux États-Unis. Et forcément, vu le prestige, le succès remporte les artistes américains, on est provincial, on est d'une petite île comme ça, perdue dans les Caraïbes, on n'est rien. Et donc lui, il va lui donner cette certitude en lui disant « Non, mais trace ta voix, sois toi-même, chante comme tu le dois chanter et chante ce que tu dois chanter ».
Et ce qu'il doit chanter, et ce que Bob Marley doit chanter, s'intitule « Soul Rebel, âme rebelle ».
Il s'ancre dans une réalité qui est celle d'une marginalité assumée. Il assume quelque chose qui est pour la société jamaïcaine de l'époque, absolument inconcevable. La Jamaïque de cette époque, c'est une Jamaïque qui essaye quoi ? Qui essaye effectivement de faire partie du concert des nations, donc avec les mêmes critères. Une évolution, une éducation, une bonne éducation, une économie, puis donner une bonne image, c'est-à-dire une image avec costard-cravate, quoi. Et là, arrive effectivement ce type échevelé qui chante à Muscle Ball, voilà, et qui se met en dissidence par rapport à cette image qu'essayent de projeter les autorités.
De là, le projet de Bob Marley sera de faire revivre les âmes du passé pour mieux construire le futur. Les âmes de ses ancêtres, tenues en esclavage par le colon britannique.
L'âme rebelle, ce qui est beau dans cette image, c'est qu'effectivement, c'est aussi en relation, si vous voulez, avec cette histoire où les corps étaient privés de liberté, étaient enchaînés, étaient fouettés, étaient torturés.
Mais là, vous parlez de la période esclavagiste.
Oui, il y a toujours ça qui trame sa vie entièrement. Et donc, dans Soul Rebel, il y a aussi le fait que vous avez enfermé mon corps, vous l'avez enchaîné, mais j'ai une âme rebelle qui est libérée de ça, qui ne peut pas être opprimée. Et donc, à partir du moment où l'âme est libre, tout est possible. C'est ça qui est important, c'est que Bob Marley ouvre un horizon qui jamais n'a été ouvert.
Bonjour.
C'est la première apparition de Gaël Faye dans ce Pop & Co dédié à Bob Marley. Gaël Faye est romancier et rappeur. Son dernier album s'intitule « Lundi méchant ».
Alors Bob Marley, toutes ses chansons sont des chevals de Troie. Tout le monde connaît les refrains de Bob Marley. On est d'abord happé par les mélodies. On n'a pas besoin de comprendre ce dont il parle pour aimer la musique. Mais derrière, il y a toujours des références à la Bible, au rastafarisme, à l'émancipation, à la condition de l'homme noir. Et c'est ça qui est fou, d'avoir réussi cet équilibre, je pense, que, à la recherche duquel on court tous les artistes, c'est-à-dire garder le message originel et en même temps être accessible. C'est fou.
Cette chanson-là commence par cette phrase. Ce qu'il y a de bien avec la musique, c'est quand elle vous frappe, vous vous sentez bien. Trenchtown, c'est le nom du ghetto où vit Bob Marley. Trenchtown, c'est le plus grand bidonville de Kingston. Trenchtown, c'est le lieu où pour la majorité de la population, on risque de se prendre une balle perdue. Francis Dordor.
C'est quoi Trenchtown, la réalité de Trenchtown? Il y a une très belle image, enfin belle, que raconte Helen Lee dans son bouquin qui s'appelle « Voir Trenchtown et mourir », où elle raconte ce qui se passait le matin avant que le soleil se lève. On voyait des gens aller avec des seaux d'aisance, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de toilette, et le verser dans le gully. Le gully, c'est cette espèce de grande tranchée qui sert d'égout. Ils allaient vider leurs seaux d'aisance, le faire avant le soleil, parce que sinon, c'est la honte absolue. Et c'est quoi qu'essaye de défaire Bob Marley dans cette chanson? C'est cette honte d'habiter ce lieu. Et lui, à travers cette chanson, effectivement, il se défait de cette honte, il la déchire, et il en fait un motif de fierté. Ça, c'est complètement révolutionnaire. Et du coup, ça va faire de cette chanson un succès commercial et puis surtout générationnel. C'est-à-dire que là, du coup, l'identification à cette figure commence à augmenter.
Rapido. Le 5 décembre 1983, l'émission Rapido de Canal+, est en reportage à Trenchtown.
Vous avez trouvé étrange que Marley ait fait de Trenchtown un endroit célèbre dans le monde entier? Non, on n'a pas trouvé ça étrange. Bob fait partie de Trenchtown et il en fait vraiment partie. Alors vous êtes fier de Marley? Très très fier.
One night, let's get
sinners who has hurt all mankind. Just to save his own belief. One love, what about one? One heart, what about one? Let's get together and be alright. As it was in the beginning, one love, so shall it be in the end. One heart, give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together.
Rebecca Manzoni.
Et ce matin, Pop & Co et Pop & Bob Marley depuis 11h et jusqu'à midi.
Oh, c'est le bonheur pour le reggae. Moi, je me mets du reggae le matin pour me réveiller.
Cette méthode de réveil reggae, c'est celle de Bernard Lavillier. En avril 1979, il est à Kingston, Jamaïque, et il rencontre Bob Marley.
J'ai rencontré dans sa maison à Hope Road, qui est maintenant devenu un musée. Et là, je l'ai rencontré parce qu'il voulait savoir ce que je racontais dans mes chansons. Il adorait une chanson qui s'appelait « La danseuse du Sud ». J'ai jamais vraiment compris pourquoi, parce qu'il parlait pas un mot de français, et mon anglais était typiquement jamaïcain à l'époque.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que les Anglais comprennent jamais quand je parle anglais. C'était un mec très silencieux. Hein. Mais il m'a quand même donné quelques conseils. Donc je suis allé dans le studio qui m'a indiqué où il y avait une coupure d'électricité à 10h du mat. Et il m'avait dit, reviens à 5h parce qu'on aura de nouveau l'électricité. Je m'étais dit, merde, j'ai raté ma journée de studio. Pas du tout.
Au studio Aquarius de Kingston, Bernard Lavillier enregistre deux chansons pour son album O Gringo. Et il y en a une qui fait...
Si tu danses reggae, si tu penses reggae, tu balances reggae.
Sans défendre ce reggae, c'est spécial reggae, infernal.
Donc j'ai utilisé le mot en permanence dans les couplets, comme une obsession. En réalité, ça faisait sonner la chanson en fin de phrase.
But it is so hard to stand the ghetto.
Ce qui m'attirait, c'était l'air qu'il y avait dans cette musique.
Tout le monde fume et tu bois.
Il n'y a pas beaucoup d'air dans le rock'n'roll, soyons clairs. Hein. Ben non, le vrai, ça va vite. Hein. Mais je veux dire, dans cette musique-là, il y a quand même cette espèce de langueur caribéenne, si on veut. Des guitaristes qui jouent jamais de solo, c'est extrêmement rare. Il y a de la place pour le texte dans cette musique. Il y a beaucoup de musique entre les notes dans le reggae. C'est un peu ce que disait Mozart, hein. C'est ce qu'il y a entre les notes, la musique. Effectivement, ça aurait dû plaire à Miles Davis, qui disait « too many notes », trop de notes. Et je pense que le reggae m'a attiré à cause de ça. J'ai appris à le jouer avec eux, parce que c'est un tempo à l'envers. Hein.
Oui, c'est pas une musique sur le temps.
Oui, voilà. Donc quand je chante ça, moi, je suis très à l'aise avec ça parce que j'aime beaucoup chanter laid back, c'est-à-dire au fond du temps. Et dans le reggae, il y a vraiment moyen, et à la fois de raconter une histoire et de faire bouger les hanches, quoi.
Elle est noire, rue dorée. Elle est belle à crever. Regarde-la marcher et danser son reggae.
Musicalement, il s'amusait beaucoup avec les, disons, avec la technologie minimaliste qu'il y avait à l'époque. Il n'était pas conventionnel du tout. Il pouvait couper la batterie pendant 8 mesures et la remettre que la caisse claire avec un délai qui est toc 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 comme ça. Et je trouvais que c'est une musique qui est ronde, si vous voulez. Elle tourne, elle rebondit. Voilà ce qui m'a intéressé.
Grâce à Bob Marley, la Jamaïque, qui n'est indépendante que depuis quelques années, la Jamaïque donc, petite île pauvre des Caraïbes, est perçue dans le monde entier comme la matrice de la musique moderne. Et Bob Marley est la première star internationale qui n'est pas issue du monde occidental. Ça se passe au début des années 70, quand Marley rencontre l'anglais Chris Blackwell, grandi en Jamaïque, créateur du label Island Records et joueur de poker. Alors Blackwell va faire un pari. Donner 4000 livres à Marley et aux Wailers pour enregistrer un album. Il s'intitule Catch a Fire, nous sommes en 1973, et Francis Dordor vous raconte la suite.
Et là, Blackwell a une idée de génie. Il va au studio et il dit « je vais réarranger ça, je vais faire une espèce d'arrangement de manière à ce que le public occidental puisse être plus familier. » Il y a des passerelles entre cette musique-là, qui est quand même assez roots, assez particulière, et puis le monde du rock. Et donc là, il est en studio, etc. Il y a un groupe à côté, un groupe de sudistes américains, et il va choper le guitariste, là, Wayne Perkins, et il va lui dire « tiens, viens dans le studio, là, viens à côté. » Écoute ça, est-ce que tu pourrais pas nous faire nous délivrer quelques solos là-dessus ? Et donc, Wayne Perkins là-dedans, évidemment, il est déstabilisé. Et puis à ce moment-là, Marley lui dit écoute là, essaye de suivre, c'est comme du blues, etc. Et là, ça le désinhibe, là, le guitariste, ça le désinhibe. Et il commence à faire des solos ultra brillants, pratiquement la première prise qui s'enroule là. J'imaginais ça comme une liane qui commence à s'enrouler autour d'un truc, enfin un truc qui ça. Et ça donne des morceaux qui sont à la fois enfin, du reggae roots, etc., mais avec une dimension un peu psychédélique qui colle totalement avec l'époque. Fire, c'est le premier album des Wailers que je vais acheter. Pour moi, c'est un album initiatique. Quand j'écoute cet album, je suis déstabilisé. Je suis déstabilisé parce que le rythme n'a rien à voir avec ce que je connais. Il y a une espèce de contretemps. Il y a ces guitares là qui cognent comme des, on dirait des machettes. Moi, je me souviens, la ligne de basse, elle faisait vibrer les vitres de ma chambre. Et dans la musique reggae, il y a une part de sorcellerie, quelque chose qui vous envoûte complètement. C'est très facile à danser, le reggae. J'ai toujours dit que c'était une des musiques les plus démocratiques au monde. Et personne ne fait tapisserie sur du reggae.
En 73, Jimi Hendrix est mort, Jim Morrison aussi, et Marley vient combler un vide. Il devient la nouvelle icône de la jeunesse. Francis Dordor a 19 ans quand il met l'album Catch a Fire sur la platine de sa chambre. Et il découvre la deuxième chanson de la face A, c'est Slave Driver, une chanson qui va changer sa vie de journaliste et sa vie d'homme aussi, je crois.
Qu'est-ce que raconte cette chanson ? Cette chanson, elle raconte la traite négrière, elle raconte la brutalité qu'infligeaient les slave drivers, ce qu'on peut appeler les maîtres d'esclaves, enfin ceux qui tenaient le fouet. Hein. Il y a cette réalité-là d'une extorsion de la force de travail de ces gens qui ont été arrachés de leurs terres. Ils n'avaient plus de nom. C'était des objets, c'était des bêtes de somme. Et donc, à travers cette chanson, Bob Marley essaye de faire revivre effectivement cette brutalité. Et le coup de génie qu'il a, c'est d'arriver à en faire, de faire le lien avec ce que lui vit. Et je pense que c'est la formule à retenir de cette chanson, c'est « je ne suis plus enchaîné, je n'ai plus mes chaînes, mais je suis enchaîné à la misère ». C'est-à-dire que la situation que vit ses congénères, que vit sa famille, que vit ses voisins, enfin voilà, qui poursuit, si vous voulez, l'œuvre de destruction qui était celle de l'esclavage. D'où l'importance d'un Bob Marley dans la mesure où lui, il va, à travers ça, réécrire ou plutôt écrire l'histoire qui n'a jamais été écrite. Donc c'est un maître de danse et ça devient un maître d'école. Parce que les petits Jamaïcains de cette époque-là, on leur interdit, on leur masque cette histoire parce que c'est une histoire honteuse, c'est une honte totale. À 90%, ils sont tous issus de cette matrice-là. Ils sont tous issus du ventre des bateaux négriers, de cette horreur absolue auquel Bob Marley va s'attacher. Son objet, son projet artistique, c'est aussi ça. C'est faire remonter cette histoire. C'est-à-dire qu'il essaye effectivement de rappeler, de réveiller les gens et de leur rappeler leur passé en leur disant « Non, mais faut pas vous cacher, vous n'êtes pas le modèle occidental, c'est pas le vôtre. » Et ça, Bob Marley le fait à travers cette chanson « Slave Driver ». Il y en aura d'autres. Hein. En tout cas, celle-là a été pour moi le début d'une révélation. Ça a été un cours de rattrapage au plan historique. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis aperçu que cette histoire ne m'avait jamais été racontée. Et c'est à travers cette chanson en particulier que j'ai commencé à vouloir creuser un peu le sujet.
En 1973 toujours, Bob Marley et les Wailers publient un autre album, c'est Burning, sur lequel figure la chanson I Shot the Sheriff, parce que les deux grandes sources de la culture populaire jamaïcaine, ce sont les films de kung-fu et les western spaghetti. Or, I Shot the Sheriff est un western reggae. Bob Marley s'y met en scène dans la peau d'un paysan harcelé par un shérif. C'est proche du quotidien qu'il a vécu quand il était délinquant dans le ghetto de Trenchtown à Kingston. Dans des interviews, il a raconté sa fuite permanente des autorités, exactement comme des gamins d'aujourd'hui qui ont la mauvaise couleur de peau ou qui habitent le mauvais quartier.
Bousculez, hein, c'est facile, hein. Nous on a pas d'armes, on a que des cailloux.
Extrait de la bande-annonce d'un film de Mathieu Kassovitz qui raconte cette réalité-là. C'est La Haine, sortie en 1995.
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.
Pour la musique d'une scène d'émeute de la haine, Mathieu Kassovitz a choisi cette chanson de Bob Marley, Burning and Looting. Voici le texte. Ce matin, je me suis réveillée sous un couvre-feu. Oh mon Dieu, j'étais prisonnier moi aussi. Je ne pouvais pas reconnaître tous ces visages devant moi. Ils portaient tous l'uniforme de la brutalité. Combien de rivières devrons-nous traverser avant de pouvoir parler au Seigneur ? Tout ce que nous avons semble avoir été perdu, nous avons payé le prix. C'est pourquoi nous allons brûler et piller ce soir. Brûler toutes les illusions ce soir. Pleurer et hurler ce soir. Pleurer et crier ce soir. Après ça, Mathieu Kassovitz met en scène cette scène-là.
La cité des Muguets a vécu cette nuit au rythme des émeutes. Jusqu'au milieu de la nuit, une centaine de jeunes a littéralement assiégé le commissariat de police qui se trouve au milieu de la cité. Les batailles rangées ont fait 14 blessés du côté des forces de l'ordre. 33 émeutiers ont été arrêtés. Ces émeutes font suite à la bavure d'un des inspecteurs du commissariat des Muguets.
Et voici un autre flash d'infos. Pas fictif, celui-ci, diffusé sur GBC Radio le 3 décembre 1976.
Here now is a special item of news from the JBC newsroom. Entertainer and reggae star Bob Marley.
La star du reggae Bob Marley, son épouse Rita et son manager ont été transportés d'urgence à l'hôpital après avoir été victimes d'une attaque à main armée au domicile de Bob Marley au 56 Hop Road à Kingston, Jamaïque. Marley a donc été la cible d'un attentat. Sa femme, son manager et lui en réchappent. Francis Dordor.
L'affaire n'a jamais été résolue. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a eu plusieurs hypothèses. Une, qu'il a été victime, une tentative d'assassinat téléguidée par la CIA. La raison était simple, c'est que Bob Marley commençait à avoir une influence trop importante sur l'île et qu'il était hors de question pour les États-Unis de voir un autre Cuba s'implanter à quelques kilomètres de son territoire. Il a peut-être été victime de ça. Il a peut-être été victime d'une autre vengeance. Tous ceux qui ont été de près ou de loin liés à cette histoire ont disparu de manière violente. Évidemment, pour Bob Marley, de la vie de tout le monde, et d'ailleurs ça va se ressentir dans ses disques, l'humeur de Bob Marley, l'humeur en général de Bob Marley, change du tout au tout. Il comprend pas pourquoi il a été victime de cet attentat. Et surtout, il se raccroche à cette foi rastafarienne parce qu'il a, il a survécu et que quelque part, il est protégé. Il se sent quand même protégé par cette présence supranaturelle.
Vous écoutez Pop & Co sur France Inter et vous écoutez aussi le journal d'Antenne 2 du 14 mai 1977.
Cet homme de 1m60 avec ses anglaises frisées ne se contente pas d'hurler une musique coup de poing. Il traîne dans son sillage le Rastafari, cette religion solidement implantée à la Jamaïque qui interdit à ses pratiquants d'absorber de la viande ou du sel et qui surtout prône le retour aux sources de la négritude, le retour à l'Éthiopie.
Le Rastafari dans l'œuvre de Marley, c'est la poutre maîtresse. Je ne sais pas, c'est comme essayer de séparer Jean-Sébastien Bach de sa vocation de musicien d'église. C'est l'inspiration. Le Rasta, c'est un chrétien qui se réinvente à la lumière, effectivement, d'un espoir, d'une espérance à travers la figure christique de l'empereur d'Éthiopie Haïlé Sélassié. Et là, c'est important de le préciser, quand je dis un chrétien réinventé, ce n'est pas des cracks, c'est pas une forme de détournement. La Bible est centrale dans la théologie rastafarienne. Et la terre promise, c'est le retour vers Zion, vers Sion. Pour eux, Sion, c'est l'Afrique, c'est l'Éthiopie, c'est le... Bob Marley, ce qui fait aussi sa particularité et son étrangeté, c'est qu'il vient pas du même moule que nous, on est dans le cartésianisme, on est dans, voilà, les choses 1 plus 1 font 2, etc. Lui, le mysticisme ou l'invisible ou le, c'est très important, c'est fondateur. Il va nourrir de cette dimension, c'est pratiquement toutes ses chansons. La sensualité a beaucoup d'importance aussi dans le reggae. C'est pour ça que c'est une musique complète, à la fois qui s'élève et qui en même temps parle au sens. C'est une musique globale, c'est une musique totale.
Au printemps 1977, Bob Marley enregistre au studio Island de Londres. Il grave les chansons d'un album qui s'intitule Exodus. Marley y fond l'histoire des Juifs de l'Ancien Testament avec celle des descendants africains mis en esclavage et à qui le rastafarisme promet le retour en terre promise. Ce thème du mouvement amène une accélération du tempo de la chanson. Exodus est reggae autant que funky. Jusqu'à sa mort le 11 mai 1981, à l'âge de 36 ans, Bob Marley va continuer d'entrer dans l'histoire. Le 22 avril 1978, il participe au concert de la paix qui tente de mettre fin à la guerre civile en Jamaïque. Et c'est Marley qui fait monter sur scène les ennemis politiques Michael Manley et Edward Seaga. Le 17 avril 1980, il est convié à la cérémonie qui consacre l'indépendance de la Rhodésie devenue Zimbabwe. Et sa chanson Zimbabwe a contribué au combat puisqu'elle était chantée sur le front par les soldats. Gaël Faye, romancier et rappeur, est né au Burundi. Il a fait le récit de son enfance dans son livre Petit Pays, et Bob Marley est une icône pour lui.
Il est important pour moi parce que au Burundi, il était vraiment un des rares chanteurs de l'étranger, enfin international, qui mettait tout le monde d'accord. Peu importe les catégories sociales et je dirais même peu importe la couleur de peau. Par exemple, je me souviens que la rumba, bon, bah, c'était écouté plutôt par les Burundais, enfin les Aïrois, et puis il y avait la musique française, il y avait le rap par les jeunes, mais Bob Marley, partout on l'écoutait, chez tout le monde. Et puis pour moi, il était aussi important parce que j'étais très fier de dire qu'il était métisse. Enfin, parce que moi-même, je suis métisse et c'est peut-être parce qu'il était métisse, qu'il a réussi à être un messager pour le monde, qu'il s'est fait comprendre au-delà de la communauté noire. Parce qu'il avait cette capacité à se rendre compte de la fragilité de ces conditions-là, des conditions d'être blanc, d'être noir. Enfin, encore aujourd'hui, dans ma vie, enfin, les métis, on n'accepte pas qu'ils le soient. Un métis, il est soit blanc, soit noir, ça dépend du lieu où il se trouve. Mais être métis véritablement, on ne l'est jamais vraiment. Et il n'y a que les autres métis qui peuvent finalement nous considérer en tant que tels. Donc pour moi, c'était aussi une fraternité. Dans mon regard, il y avait quelque chose de me dire « j'ai un grand frère ».
Le dernier album, publié du vivant de Bob Marley, s'intitule « Uprising ». Uprising, ça veut dire soulèvement. Et il y a cette chanson, Redemption Song, où il est seulement accompagné par une guitare acoustique.
Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong. By the end of the Almighty, we forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. Redemption songs.
Ma fille, elle me demandait c'est quoi ta chanson préférée au monde. Je lui ai dit c'est Redemption Song. Et tout simplement parce qu'elle est simple, elle est intemporelle. C'est un message qui parle des dominés, qui est la voix des sans-voix. Mais il appelle aussi à la fraternité, il appelle à s'émanciper. Enfin, emancipate yourself from mental slavery. C'est-à-dire qu'il y a eu l'esclavage dans la réalité, mais il y a aussi l'esclavage qui se perpétue dans nos esprits, dans nos cœurs. Et puis il y a toujours un appel à un Dieu, une force au-dessus de nous. Et moi, cette force-là, je l'entends comme la force de la musique. C'est pas un Dieu en tant que tel. Pour moi, il parle de la musique et dit que la musique, elle est plus forte que l'énergie atomique, qu'on n'a pas à avoir peur. Moi, je la ressens toujours comme une prière, cette chanson.
Francis Dordor.
Je pense que là, c'est une chanson testament. C'est-à-dire que là, il résume un petit peu son œuvre avec une humilité qui, quand même, est complètement bluffante, quoi. Il dit, voilà, tout ce que j'ai, les seules choses que j'ai, avec une forme de... presque en disant, voilà, ben, je suis désolé, je n'ai que ça. Ce sont des chants de rédemption.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind.
Tout ce qu'il a donné au monde, tout ce qu'il a pu transmettre, ce sont ses chants. Et ça n'a pas changé l'ordre du monde. Bob Marley a pu vendre des millions de disques. Les choses n'ont pas fondamentalement changé. Il y a toujours ces discriminations. Le racisme se porte très bien. Mais voilà, il dit, au moins j'aurais essayé, j'aurais donné ça. En espérant que c'est pu aider, que c'est pu consoler, que c'est pu apporter et inspirer des... ce que ça a fait d'ailleurs, malgré tout.
Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption.
Et on interrompt nos programmes pour les infos. France Inter.
Le journal vous est présenté par Alain Passerelle. Bonsoir Alain.
Bonsoir. Au sommet de cette édition, cette fois, la Tunisie qui vit une véritable révolution. Le président Ben Ali, confronté aujourd'hui à de nouvelles contestations, a quitté son pays. On dit même qu'il est à Paris à l'heure qu'il est.
Ce jour de janvier 2011, Francis Dordor est devant sa télé comme tout le monde. En revanche, lui s'attarde sur une des banderoles des manifestants tunisiens. Dessus, on lit « We refuse to be what you want us to be ». Nous refusons d'être ce que vous voulez que nous soyons. Ce sont des paroles de Babylon System, écrites par Bob Marley.
Là, à ce niveau-là, de savoir qu'on est en 2011, Bob Marley est mort depuis 1981, donc voilà, ça fait 30 ans, et pour ces 30 ans, quelle manière plus, j'allais dire, magique presque de lui rendre hommage que de faire ressortir, faire rejaillir certaines de ses paroles dans un contexte aussi fort
que le début d'une révolution, à l'issue de laquelle d'ailleurs un dictateur va tomber. Donc preuve qu'il a aussi animé, il a aussi alimenté, il a aussi stimulé un esprit de, je vais dire, de révolte pacifique. Bob Marley est une référence universelle et je pense que c'est un des rares, vraiment une des rares personnes à être à ce point, à avoir cette dimension universelle, pacifique.
Get Up, Stand Up, chanson coécrite par Bob Marley et Peter Tosh.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Pour écrire ce récit, on s'est plongé dans les livres de Francis Dordor, dont celui paru chez GM Éditions sous le titre « Bob Marley, le dernier prophète ». Il y a aussi le documentaire de Kevin MacDonald, intitulé « Marley ». Et comme nous n'avons pas parlé du répertoire romantique de Bob Marley, je me permets de vous signaler la chronique Tube & Co. qui vous fait entrer dans les coulisses d'une de ses plus belles chansons d'amour, c'est « Is This Love ». La chronique est en écoute sur le site d'Inter et sur les plateformes. Gaël Faye, vous l'avez entendu dans sa version parlée, dans cette émission, dédiée à Bob Marley. Et voici Gaël Faye dans sa version chantée, pour le morceau « Chaloupé », extrait de son dernier album.
Un jour viendra le corps tassé, les parchemins sur nos visages, ceux qui racontent la vie passée, tous les succès et les naufrages, et nos mains qui tremblent au vent, comme des biggins au pas léger. Continueront de battre le temps sous des soleils endimanchés. Un jour viendra, on fera vieux os, des bégonias sur le balcon, un petit air de calypso, photo sépia dans le salon. malgré la vie, le temps passé, malgré la jeunesse fatiguée, personne ne pourra empêcher nos corps usés de chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Avant que le printemps se fasse automne, que l'on s'éloigne de la rive, on scratchera du gramophone quelques ritournelles caraïbes. On s'épuisera sur le dance floor en de petits pas économes, tant que sera levé le store, nos palpitants seront métronomes. Elles me reviennent les années folles, quand on mourait seulement de rire. Oh, rappelle-toi du Malécone, le clapotis de nos souvenirs. Un jour viendra cette ritournelle, quand ma voix se sera envolée. Je te supplie en souvenir d'elle de continuer à chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper. Chalouper, chalouper.
La semaine prochaine, Pop & Co et Christophe, du moment où il a crié Aline jusqu'à celui où il a murmuré Dangereuse. Koyan Guyen a réalisé cette émission avec Gilles Gaillard ce matin, Ilinka Negulesco a mis sa souris sur toutes les archives et JB Audibert a composé la programmation musicale. Salut, bon week-end et à samedi.